Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Ce soir, on parle de politique culturelle, on parle de bibliothèque, on parle également de numérique, politique culturelle d'abord, avec mon invité principal ce soir, Laurence Ingel, la présidente de la Bibliothèque nationale de France. Bonsoir, madame. On vous a pas entendu dire bonsoir. Ah. Le micro était pas ouvert. Rebonsoir, Laurence Ingel.
Rebonsoir.
Ça fait combien de temps, depuis combien de temps vous présidez la BNF?
Un peu moins de 4 ans.
On parlera avec vous de cette institution donc, que vous présidez depuis un peu moins de 4 ans, la Bibliothèque nationale de France, de son dépôt légal, de ses archives, de ses activités culturelles également, parfois de ses grèves à répétition aussi. Mais on parlera également de la bibliothèque rue de Richelieu, l'ancienne bibliothèque nationale pour laquelle vous avez de grands projets. Et puis plus largement des bibliothèques, à quoi elles servent en termes culturels, en termes sociaux, en termes numériques également. Tout ça au cours de cette émission. Laurence Ingel, vous serez interviewée ce soir par Claire Baumeller du Figaro. Bonsoir Claire.
Bonsoir Frédéric.
Et Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, on reviendra également sur la taxe GAFA, sur la plateforme de musique en streaming Tidal, sur la nuit de la lecture, puis la nuit des idées. Et votre invité, Zoé Sfès, ce soir est Olivier Tesquet, journaliste à Télérama.
Oui, qui signe 2 livres en fait en cette rentrée. C'est beaucoup, mais nous on l'interviewera plus précisément sur À la trace, un livre qui est paru aux éditions Premier Parallèle. Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des GAFAM et autres entreprises. Pourquoi est-ce qu'on est à un tournant? Pourquoi aussi cette question de la surveillance? On oublie de se la poser car on ne la voit presque plus.
Olivier Tesquet, on sera ce soir dans la tête d'Olivier Tesquet. Bonsoir Olivier Tesquet.
Bonsoir Frédéric.
Qui était régulièrement chroniqueur d'ailleurs dans cette émission. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche. L'émission est réalisée ce soir par Anna Holweck avec en régie Louis Bardinet. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata. Car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter mot-clé Soft Power, sur notre playlist Spotify. Toujours, elle s'appelle toujours Soft Power, ainsi que sur Instagram, Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme, c'est parti. France Culture, 18h14, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos invités, Laurence Ingel, Olivier Tesquet et nos chroniqueurs. Ce soir des chroniqueuses, Claire Baumeller du Figaro et Zoé Sfès. On commence avec vous Zoé par évoquer tout simplement les vœux du ministre de la Culture, des vœux, comment dire, chahutés.
Mais c'était pas des vœux, en réalité. C'est un début d'année très compliqué pour Franck Riester, ministre de la Culture, puisque il a annulé ses vœux qui devaient avoir lieu mardi dernier et qui devaient avoir lieu à la BNF chez vous, Laurence Ingel. On a tous reçu le même mail 2 jours avant, nous expliquant que pour des raisons parce que ça n'était pas possible dans des conditions sereines, je crois. Franck Riester qui ensuite n'a pas renoncé à sa sortie qui était prévue donc jeudi dernier, le 23, c'était à Nantes, au Biennale International du Spectacle Vivant, à Nantes, où il devait faire une annonce qui était plutôt attendue en réalité, une annonce que beaucoup de journalistes ont oublié de relayer, une annonce de 1 million d'euros de crédits supplémentaires pour le spectacle vivant jusqu'en 2022 pour essayer, disons, de contrer les effets potentiellement pervers de la fameuse loi des 3D, délocalisation, décentralisation. Donc il annonçait ces 8 millions de crédits en plus pour des reprises de spectacles, etc. Et il a été accueilli par une interstitiale du spectacle vivant qui l'a plus que chahuté, qui a pris la parole avant même que lui ne puisse la prendre et qui a donc dit sa défiance à la fois envers cette fameuse loi des 3D qui vise directement le spectacle vivant et en même temps évidemment les préoccupations liées à la réforme de l'assurance chômage, puisque il faut le rappeler absolument, on est sur un secteur, le secteur de la culture, qui compte au moins 5 régimes spéciaux, la Comédie Française, l'Opéra de Paris qui est toujours en grève, les intermittents du spectacle, les pigistes,
qui n'a pas été hier soir, je crois,
les artistes-auteurs, exactement. C'était la première fois qu'il y avait une reprise, mais c'est pas dit que ça continue. La prochaine journée mobilisation, je crois, c'est mercredi prochain. Franck Riester qui s'est dit, je cite, très attentif à ce que la situation sociale ne soit pas dégradée par la réforme des retraites. Je prends 4 engagements devant vous. Il n'y aura pas d'impact négatif ni sur le pouvoir d'achat, ni sur le budget de la culture, ni sur le niveau des pensions, ni sur l'emploi. Et là-dessus, l'intersyndicale a repris la parole derrière pour expliquer que telle qu'elle existait, la réforme ne garantissait aucune de ces 4 engagements. Néanmoins, le BIS, donc le président des Biennales internationales du spectacle, s'est félicité quand même d'avoir maintenu cette rencontre en expliquant que Franck Riester avait quand même eu le mérite de venir, en expliquant que certains ministres par le passé avaient tout à fait oublié, enfin en tout cas avaient annulé toute leur performance. Et en fait, on s'est rappelé quand même que il s'était passé exactement la même chose en 2006 avec Renaud Donnedieu de Vabre, qui lui aussi essuyait à peu près la même colère. C'était au moment de la réforme de l'intermittence du spectacle qui avait finalement été tout à fait écartée.
Laurence Saint-Gel, une réaction, les vœux finalement, les petits fours ont été remis au frigo tranquillement.
Il n'y avait pas de petits fours, donc de ce point de vue, pas de changement au programme. Et voilà, écoutez, c'était pas propre au ministère de la Culture, me semble-t-il, l'annulation des vœux. Donc
une décision plus globale.
C'est d'autres ministères, oui, absolument. D'autres ministres ont renoncé aussi.
Autrement dit, c'est le lieu emporté, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, le fait que ce soit la BNF.
Ah non, alors ça, de toute façon, ça n'était absolument pas lié au lieu, puisqu'il n'y avait pas de problème particulier ou lié particulièrement à la BNF.
C'était une stratégie globale de l'exécutif.
Nuit de la lecture et nuit des idées. L'une a eu lieu, l'autre va arriver. On en parle avec vous, Laurence Saint-Gel, dans un instant, Zoé Sfez. Des événements relativement récents.
Bah oui, alors bilan pour la 4e édition de la Nuit de la Lecture, ça c'était donc il y a 10 jours à peu près. 4e édition, cette Nuit de la Lecture, il faut se rappeler, elle avait été décidée en 2017, c'était la première édition, décidée très peu de temps avant d'être mise en œuvre par Audrey Azoulay, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et là, donc, on est sur une 4e édition qui bat des records de fréquentation quasiment tous les ans. 650 000 participants, 6000 événements gratuits à peu près partout en France, dans le monde, mais essentiellement en France, sous le signe dit du partage. Alors quand on dit nuit, ça va de 18h à 22h, c'est ça à peu près, je crois. Et ça se passe essentiellement dans les bibliothèques. Et puis la Nuit des idées qui arrive, et vous en faites partie avec le Collège de France. Cette fois-ci, c'est sous l'impulsion de l'Institut français. Et là, pour le coup, ça a lieu dans le monde entier. Cet thème de cette année, c'est être vivant. Il y a 2 masterclass en partenariat avec France Culture à la BNF. Et toute une très belle programmation, masterclass avec notamment François Sureau et Elisabeth de Fontenay. Ces 2 manifestations, elles ont respectivement 5 et 4 ans, 2 nuits comme ça dans le mois de janvier. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, institution culturelle, ce type d'événement-là ? Qu'est-ce que ça dit finalement qu'il y a eu ce besoin ? Et sur ce mois de janvier, qui est toujours un mois, disons, un peu mort, c'est ce qu'expliquait en tout cas le ministère de la Culture quand il a mis en place ces nuits-là. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement ?
Je pense que pour le choix de la date, vous l'avez dit, les manifestations, ce type de manifestation existe depuis longtemps. Enfin, le modèle, le prototype, c'est
de la musique,
de la musique,
82.
Absolument. Et à ce moment-là même, Jack Lang, lorsqu'il lance ce dispositif, cette manifestation qui continue d'exister aujourd'hui encore, ne dit pas on invente quelque chose de complètement nouveau. Il veut mettre en lumière des pratiques.
On fédère,
fédère
des choses qui existent déjà par ailleurs.
Oui, et puis c'est un geste politique. On veut mettre en avant, on veut mettre la lumière sur quelque chose qui se fait déjà. Donc la lecture, le lien entre la lecture et les bibliothèques et les librairies aussi, ou le lien entre les idées et par exemple les bibliothèques, mais toutes sortes d'autres lieux.
Parce que là,
préexiste évidemment. Oui, voilà, préexiste évidemment à ces manifestations. Et le choix de la date, c'est parce que la fête de la musique est en été et qu'il n'y avait pas encore de manifestation à ce moment-là de l'année. Donc le choix de la date est vraiment lié à ce calendrier des manifestations. Ce que ça peut apporter aux bibliothèques comme à toute autre institution, c'est précisément l'objectif poursuivi, de mettre en lumière quelque chose qui existe. En tout cas, pour la lecture, c'était très clair. Cette envie de rappeler que la lecture est quelque chose d'important dans la ligne de la politique menée depuis longtemps en faveur de la lecture et en faveur du livre. Voilà.
Il y avait la fureur de lire à une époque. Ouais. Il y a eu.
Absolument.
Est-ce qu'on n'a pas trop finalement parfois d'événements comme ça répétitifs ? Il y en a beaucoup, vous disiez, il y a l'été, l'hiver, mais il y a aussi le printemps, l'automne et beaucoup d'autres saisons finalement.
Oui, il y a la nuit des musées, il y a la journée du patrimoine. Voilà, oui.
Est-ce qu'on risque pas de lasser à force de multiplier?
Alors, on peut se poser la question, mais le public dit le contraire.
Et puis, c'est pas le même public.
Le public vient et semble venir de plus en plus souvent. Donc, je pense que ça correspond aussi à un besoin des gens de se retrouver. Donc, finalement, les objectifs des uns et des autres se retrouvent. Je ne suis pas.
Enfin, de se retrouver aussi physiquement et non pas simplement sur Facebook et sur les réseaux sociaux.
Oui, il y a ça sans doute aussi l'idée que même si le numérique se développe partout, le numérique ne suffit pas. Ça, je pense qu'on va y revenir et qu'on a besoin de se retrouver. Ça ne suffit pas à construire une politique culturelle.
Est-ce que c'est un public différent?
Claire Baumeler.
C'est ça, c'est la question. Oui. Qui vient vous voir sur ces nuits de la lecture? Est-ce que vous voyez des gens que vous ne voyez pas le reste du temps?
C'était ça le pari à l'origine, c'est créer un événement de manière à attirer un nouveau public.
Pour la nuit de la lecture, je ne suis pas sûre que ce soit ça l'objectif. En tout cas, on essaye très régulièrement parce que la politique des publics et l'envie ou la nécessité de développer les publics et surtout de les diversifier et partagés par toutes les institutions culturelles depuis longtemps, ces événements peuvent y contribuer, mais encore une fois, ils ne résument pas la multiplicité des actions qui sont entreprises par les uns et par les autres. Alors, est-ce que ça apporte un public différent à chacune des institutions? Il faudrait regarder dans le détail. Je n'ai pas regardé d'études globales sur la nuit de la lecture ou sur la nuit des idées. Pour ce qui concerne la Bibliothèque nationale, on intervient, alors ceci étant dit, aussi en ligne avec une opération, enfin un outil numérique mis à la disposition des écoles et d'autres institutions pour donner accès à la lecture. Et pour ce qui concerne le site lui-même, on a invité des enfants à venir. Donc là, en effet, dans une bibliothèque plutôt de recherche, il n'y a pas tous les jours et à tout moment des enfants qui viennent. Enfin, ils viennent de manière plus épisodique. Et donc ce moment-là en est. Et par ailleurs, depuis le début de l'opération Nuit de la Lecture, nous avons invité le public à venir sur le site Richelieu écouter des textes dont la bibliothèque conserve les manuscrits, dans la salle de lecture des manuscrits, donc dans un endroit qui n'est pas... Enfin, on ne cherche pas à faire du chiffre, pour le coup. C'est une petite salle, mais c'est un endroit extrêmement précieux, très, très joli et peu vu par le grand public, puisque réservé aux chercheurs qui viennent y travailler. Donc, par construction, on y voit des gens qui, habituellement, ne viennent pas à cet endroit.
Claire Baumeler, Zoé Sfez, pour terminer sur ce sujet.
Non, sur la nuit des idées, ce qui est extraordinaire, c'est le succès à l'international. Je ne sais pas.
C'était son objectif, d'ailleurs.
C'est son, français... Parce que là, il y a 40 pays qui ont adopté... qui se sont associés. Et c'est amusant de voir que la France exporte sa philosophie.
Oui, c'est effectivement une opération qui est née de l'Institut français ou à l'Institut français,
donc,
c'est-à-dire
ministère
des Affaires étrangères, très en lien avec le ministère de la Culture, mais avec une vocation internationale. La présence des idées ou des artistes ou des auteurs français à l'étranger, elle existe réellement. Donc on le voit ou cette manifestation en témoigne à sa façon.
En 2020, les grandes entreprises du numérique paieront une taxe en France. Alors soit nous arrivons, ce que nous souhaitons et ce que nous avons toujours souhaité avec le président de la République, à une solution internationale à l'OCDE. Et dans ce cas-là, ce sera la solution internationale de l'OCDE qui s'appliquera. Soit nous n'arrivons pas à une solution internationale à l'OCDE et dans ce cas-là, ce sera notre taxe nationale qui s'appliquera. Car la taxe nationale française sur le numérique, elle n'est ni suspendue ni retirée. C'est simplement le paiement des acomptes qui sont reportés du printemps à décembre 2020. Pourquoi ? Pour laisser le temps à la négociation de se faire dans de bonnes conditions, de manière sereine, comme le président de la République et le président Trump en sont convenus dimanche dernier.
Encore dans l'actualité ce soir, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, il s'exprimait ici au Forum économique mondial de Davos en Suisse. C'était ce jeudi à propos aux espèces de la taxe GAFA, une sorte de paix armée, écrivait d'ailleurs le Figaro, entre Paris et Washington a été décidée. Le ministre a rappelé que ça ne voulait pas dire pour autant que cette taxe était ajournée.
Alors là, Bruno Le Maire essaye de présenter ça comme une bonne nouvelle. C'est probablement pas une si bonne nouvelle que ça. C'est quand même une forme de reculade de la part des Français. Il faut quand même appeler les choses parce qu'elles sont. D'ailleurs, les titres sont peu ambigus là-dessus. Donc, il y a eu ces fameux échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Et Paris, donc... Alors, dit que ça n'est pas une suspension, qu'on suspend les paiements de cette taxe.
Mais les paiements continuent à être comptabilisés.
Ils continuent à être comptabilisés en attendant une négociation au niveau de l'OCDE, au niveau européen. Or, la France avait quand même, c'était quand même une position particulière, annoncé, alors que ces négociations, elles auraient pu continuer toutes seules, Bruno Le Maire avait décidé d'aller faire cavalier seul, ce qui était une stratégie risquée et clairement qui s'est pas avérée payante, en disant on taxera avant même que les négociations finissent par se conclure, parce qu'on le sait très bien, c'est très difficile de négocier au niveau européen sur des questions de taxation. Or, en l'occurrence, il ne se passera rien puisque, en représailles, évidemment, Donald Trump avait avait menacé de taxer toute une série de produits français et en particulier le vin à 100%, ce qui était une menace effectivement très effrayante. Donc Bruno Le Maire qui dit qu'il veut toujours parvenir à un accord au niveau de l'OCDE. Alors, est-ce qu'on y arrivera avant 2020? C'est absolument pas certain. On en parlera avec vous, Olivier Tesquet. Et il y a effectivement en plus l'idée que du coup on s'est tous désolidarisés puisque du coup toujours au niveau européen, d'autres pays qui eux-mêmes étaient sur le même type de réflexion sur la taxe, les Britanniques, les Italiens, qui sont sous le coup des mêmes types de menaces de la part des États-Unis, sont eux encore plus seuls dans cette stratégie de taxation. Donc la question c'est véritablement, est-ce que cette taxe défendue par Bruno Le Maire française a toujours lieu d'être? C'est-à-dire est-ce qu'on continue à comptabiliser une taxe qui peut-être ne verra jamais le jour en attendant des négociations au niveau de l'OCDE qui verront le jour peut-être dans un an ou deux? Comment est-ce que vous voyez ça, vous, Olivier Tesquet?
Ça fait déjà 7 bonnes années.
Serpent de mer.
C'est un serpent de mer depuis.
François Hollande l'avait annoncé, d'autres.
On l'a eu sous toutes les formes. Alors aujourd'hui, c'est la taxe GAFA. Pendant longtemps, ça a été la taxe Google.
La taxe GAFA qui est un peu un raccourci quand même, puisque ça ne concerne pas que les GAFA.
Non, ça ne concerne pas que les GAFA. Et d'ailleurs, ça a été quand même l'un des problèmes pendant longtemps. C'était que pour trouver l'assiette de taxation, il fallait trouver une espèce de cote un peu mal taillée pour que ça s'applique aux GAFA, mais pas à tout un tas d'autres entreprises.
Pas trop aux Français, c'est possible.
Ce qui posait un problème d'équité devant l'impôt, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fini par avoir des discussions, ou réclamer en tout cas des discussions au niveau de l'OCDE. Et sur ces difficultés déjà existantes, sont venues se greffer tout un tas de considérations diplomatiques avec l'élection de Trump, qui effectivement est un partenaire commercial un peu imprévisible.
Et pugnace, on peut le dire aussi.
Et pugnace, et qui fait qu'effectivement aujourd'hui, une fois de plus, on est parti un peu la fleur au fusil. Et puis
on est parti, parce que la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Bruno Le Maire, à un moment donné, Bruno Le Maire est donc évidemment Emmanuel Macron, on se sont lancés dans ces déclarations d'intention, ont persisté dans ces déclarations d'intention qui étaient quand même relativement irréalistes.
Alors je crois que ça participe aussi, alors c'est marrant, ça fait un peu le lien avec ce dont on parlera tout à l'heure, mais ça participe aussi de cette mise en scène assez factice d'un affrontement avec les têtes de pont du capitalisme numérique, quoi. C'est une manière de dire au Facebook, au Google, qui échappent notoirement à l'impôt, et on le sait, et on passe l'année à essayer justement de récupérer les sommes qui sont dues au trésor public français. Donc c'est une manière aussi d'exister politiquement par rapport à ces grandes entreprises qui viennent finalement leur tailler des croupières. Et peut-être juste un dernier point, c'est que les discussions au niveau européen sont aussi rendues compliquées par le fait qu'on a dans l'Union tout un tas de pays qui n'ont aucun intérêt à changer les règles du jeu. Je pense alors évidemment à des paradis fiscaux déclarés tels que le Luxembourg, tels que l'Irlande, mais même les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui font partie du montage d'optimisation fiscale, qui n'est jamais qu'une appellation pudique de l'évasion fiscale, pour tout un tas de ces grandes entreprises et qui ont objectivement assez peu d'intérêt.
Et avec ça, en face de ce débat, le fromage, le champagne et les produits cosmétiques français qui risquaient d'être taxés à coups de milliards si cette taxe était mise en place par la France. Donc,
Et ça va être la même chose. En plus, du coup, on abandonne un peu ceux qui nous avaient suivis sur ce dossier, à savoir les Britanniques et les Italiens, qui se retrouvent encore plus marginalisés d'une
certaine manière. Laurence Saint-Gel, sur ce sujet?
En tout cas, vous parliez de pugnacité et de persévérance, qui est la manière positive de parler du serpent de mer, mais c'est quand même la même chose. Donc, il faut l'être. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait bien que ces sujets sont complexes, sont longs.
Si on ne part pas avec déjà un peu de volonté, on n'arrive à rien.
Oui, alors de ce point de vue-là, le fait d'aller, comme vous le disiez, la fleur au fusil, enfin, en tout cas de tenter quelque chose.
C'est plutôt une bonne chose.
C'est plutôt une bonne chose, parce qu'il faut tenir ce discours, il faut le porter et le porter durablement. D'autant plus que les Américains, de ce point de vue, sont, si on se place pas du point de vue seulement des industries culturelles, mais de l'économie en général, sont soumis à la même difficulté. C'est-à-dire que aux États-Unis non plus, les GAFA ne payent pas d'impôts. Donc, il y a un terrain.
Donc, il y a peut-être une possibilité de s'entendre.
c'est une possibilité. En tout cas, le monde de la fiscalité est appelé, avec le numérique, à évoluer sur des bases qui sont celles qui ont été proposées par les Français ou par d'autres. Mais c'est un sujet qui a un bel avenir devant lui.
Comment est-ce que vous lisez, vous, Olivier Tesquet, la stratégie de Donald Trump sur ce dossier-là précisément? Parce que Donald Trump, on l'a vu, a mis cette espèce de menace en balance. Et en même temps, lui, sur son propre terrain aux États-Unis, a fait des GAFA. Et là encore, c'est peut-être sans doute une stratégie politique. Ses ennemis, lui aussi, comment est-ce qu'on peut lire cette espèce de double jeu d'acteurs?
Oui, c'est assez particulier parce qu'effectivement, Donald Trump entretient des relations avec ces grandes entreprises numériques qui sont des relations assez compliquées. On a bien vu que pour l'élection de 2016, les médias étaient considérés comme des ennemis déclarés. Tout se présente pour 2020. Pour que les entreprises du numérique, que sont Facebook, que sont Google et que sont d'autres, Amazon par exemple, que Jeff Bezos est quand même la némésis de Donald Trump, pour qu'ils soient eux-mêmes maintenant ses ennemis déclarés pour 2020. Donc effectivement, il y a cette espèce de double jeu où ce sont des ennemis sur le territoire national, mais où ça fait exister finalement l'influence américaine pour embêter la vieille Europe à l'étranger.
À suivre dans Soft Power, on vous retrouve Olivier Tesquet pour votre livre À la trace, suivi par la présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Angèle. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité, un mot sur Tidal. Tidal, c'est la plateforme de musique en streaming lancée en Europe d'abord et puis rachetée par des artistes américains, réunis d'ailleurs par le rappeur Jay-Z. L'objectif de Tidal était de devenir un rival, un grand rival de Spotify, Deezer ou Apple Music, avec un modèle économique vertueux visant à une meilleure rémunération des artistes, identique au prorata des écoutes pour les stars et les indépendants, par exemple. À coup d'exclusivité et une clé de partage des revenus privilégiant donc les artistes, Tidal a connu son heure de gloire en 2016 et réunit plus de 3 millions d'abonnés, chiffre qui n'a jamais toutefois été vérifié. Des artistes superstars comme Drake, Kanye West, Rihanna ou même Daft Punk et Arcade Fire avaient rejoint la plateforme qui était possédée majoritairement par les artistes eux-mêmes, dont Madonna, Rihanna ou Alicia Keys, sans oublier Beyoncé, justement la femme de Jay-Z, qui avait lancé sur Tidal en exclusivité son album Lemonade. Hélas, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. La plupart des artistes ont cessé de donner leur exclusivité à Tidal et Jay-Z lui-même a fait en fin d'année son retour sur Spotify le jour de ses 50 ans. Bon anniversaire, bon retour sur Spotify, a tweeté Pince sans rire, la plateforme suédoise. Alors l'expérience Tidal est-elle terminée ? À moyen terme, c'est probable, surtout que la compagnie perd plus de 50 millions de dollars par an malgré l'entrée au capital d'un géant des télécoms américains, Sprint. Mais cela pose néanmoins la question de la répartition des droits de la musique en streaming et de la concentration, très grande concentration au demeurant, dans ce secteur crucial pour l'avenir de la musique. 80% aujourd'hui de la musique en streaming est écoutée en streaming, donc c'est des chiffres américains, mais valables un peu partout. Donc la musique, c'est beaucoup le streaming, YouTube bien sûr, mais aussi des plateformes comme Spotify, donc suédois je l'ai dit, Apple Music ou Tencent en Chine, et dans une moindre mesure Amazon Music, Deezer en Europe, hein, Deezer qui entre parenthèses n'est plus vraiment français au sens strict, hein, même s'il a encore son siège social en France depuis l'entrée au capital d'un actionnaire majoritaire russo-américain. On peut citer également Pandora aux États-Unis sur un modèle un peu différent, ou le petit français Qobuz sur la niche de la musique classique, sans oublier le passionnant SoundCloud, la plateforme allemande préférée des indépendants, mais qui elle aussi est un peu une niche. Bref, tous ces acteurs du streaming sont au cœur du modèle économique de la musique aujourd'hui. Tidal était une belle expérience et c'est pourquoi on doit saluer son audace, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, comme Jay-Z vient d'en faire, hélas. L'expérience. Welcome back to the jungle, Mr. Jay-Z. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down, spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from.
These streets will make you feel brand new. with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my
l'instant, un extrait de Empire State of Mind, signé Jay-Z, 18h36 sur France Culture. Zoé Sfez.
Et Olivier Tesquet, bon rebonsoir Olivier Tesquet.
Rebonsoir.
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, vous êtes journaliste à Télérama. Avant cela, vous étiez un ancien du site OVNI qui a beaucoup compté dans la manière dont la presse française et même le grand public a compris les questions numériques. Vous avez aussi été chroniqueur ici dans Softpower pour Frédéric Martel. Vous publiez deux livres en ce début d'année. Un livre qui paraît la semaine prochaine, coécrit avec Guillaume Ledy, dans la tête de Julian Assange. On parlera de Julian Assange en fin d'entretien. Personnage que vous connaissez bien puisque vous avez déjà publié Comprendre Wikileaks, ça c'était en 2011. Mais surtout, vous êtes l'auteur aux éditions Premier Parallèle d'un livre intitulé « À la trace » et dont le sous-titre « Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance » dit assez bien le projet. Alors, vous l'expliquez, les dispositifs de surveillance sont présents à peu près partout. Surtout, ils se sont imposés comme naturels, de moins en moins visibles, de mieux en mieux tolérés. Dans les deux premières parties de votre livre, vous essayez de comprendre d'où viennent et comment est-ce qu'ils sont mis en place. Donc, une première partie qui s'appelle « Contrôler », qui relève plutôt de la stratégie, disons, bien ancestrale de l'État, la volonté de contrôle de l'État. Et l'autre qui s'appelle « Capitaliser », qui rappelle, là encore, l'essor d'une économie à la Silicon Valley qui repose de plus en plus, qu'on le veuille ou non, sur la surveillance parce qu'elle repose sur la donnée. On a finalement le croisement de ces deux stratégies qui ne sont pas nécessairement des stratégies volontaires, en tout cas pas du côté nécessairement des entreprises, mais de fait qui aboutissent à un niveau de surveillance. Vous allez, qu'est-ce qui vous paraît inquiétant aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'en 2020 on est peut-être à un tournant?
Alors, il y a deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. La première chose qui est à prendre en compte, c'est effectivement une forme d'hybridation aujourd'hui entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette surveillance régalienne avec les représentations populaires qu'on pouvait en avoir, des filatures, des écoutes, des grandes oreilles. Mais aujourd'hui, on a des entreprises qui participent pleinement finalement de cette surveillance à travers la mise en place de tout un tas d'outils et parce qu'elles partagent avec les États finalement la même double obsession qui est à la fois la prédiction des comportements, qu'elles soient à des fins publicitaires ou à des fins sécuritaires pour l'État, et pour l'automatisation. Et si possible, pour la prédiction des comportements via l'automatisation. Et le deuxième point qui est lié, alors là strictement, au développement des technologies de surveillance par des entreprises privées, et là encore que ce soit de très grosses entreprises ou que ce soit des entreprises et des acteurs plus clandestins, c'est la disparition, mais au sens de la gazéification presque,
vous utilisez des dispositifs. Un système gazeux.
Oui, c'est ça, parce que tout est fait, en fait, pour que, ou bien les dispositifs n'apparaissent plus. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'acteurs effectivement clandestins qui sont sous la surface et qui participent de cette économie, de ce capitalisme de surveillance tel que l'appelle la chercheuse américaine Shoshana Zuboff. Et puis tout un tas d'acteurs qui ne veulent pas se présenter comme des acteurs de ce capitalisme de surveillance. Alors j'ai quelques exemples dans le livre. Je parle par exemple d'Instagram, que j'essaie de voir comme un dispositif de surveillance dans la mesure où ça crée ce que Foucault appelait le continuum carcéral entre toutes ces institutions disciplinaires qui parcourent et qui jalonnent nos vies. Et puis pour les dispositifs qui sont plus invisibles, gazeux, on a aujourd'hui tout un tas de choses, des assistants vocaux, aux caméras, qu'on fait rentrer chez soi, des choses qu'on fait rentrer presque à l'intérieur de soi, et qui participent quelque part de notre abandon, ou en tout cas de notre reddition face à ces dispositifs.
Effectivement, alors vous revenez dans ce livre aussi sur effectivement Instagram, sur ce qu'intuitivement on peut appréhender comme un endroit où on sent nous-mêmes qu'on est à vue quasiment tout le temps, mais ensuite vous rentrez dans le détail, et il n'y a pas que vous, sur ce qu'effectivement suppose cette présence, ce déterminisme algorithmique, on le sent. En réalité, le système économique de la plupart des grandes entreprises dont on vient de parler repose, vous l'avez dit, sur la prédiction. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 96% des revenus de Facebook sont des revenus publicitaires, donc Facebook en fait est une immense régie publicitaire. La question des données personnelles, on en parle souvent ici, on parle souvent de la question de la vie privée. La star un petit peu de cette partie sur ce capitalisme de surveillance, c'est ce qu'on appelle les data brokers. On en a parlé souvent, qui ont abouti au scandale de Cambridge Analytica, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi précisément en dehors de l'idée qui pourrait nous déplaire du fait qu'en réalité les gens qui nous vendent de la pub savent tout de nous, et quelles sont les potentielles dérives déjà existantes, de l'existence même de ces acteurs-là. Qui sait ? Ces petites boîtes qui aspirent nos données, sans même qu'on le sache.
Alors, parfois, ce sont de très grosses boîtes. Ça peut être, c'est des entreprises qui peuvent valoir plus d'un milliard de dollars, qui sont d'ailleurs antérieures aux grandes plateformes numériques dont on parle souvent, parce qu'elles sont historiquement assez liées à l'émergence des sociétés qui font du calcul de score de crédit aux États-Unis, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Je les trouve particulièrement signifiants, ces data brokers, ce qu'on appelle aussi des courtiers en données, parce qu'ils sont les espèces de courroies de transmission à la fois entre les grandes plateformes auxquelles ils rachètent, revendent tout un tas d'informations, et puis aussi avec les États. Donc effectivement, ils participent de ce profilage publicitaire généralisé en étant des acteurs clandestins qui n'ont pas vocation à avoir pignon sur rue. Et il faut noter à cet égard que si on veut faire supprimer des informations par les courtiers en données, comme l'avait fait une journaliste américaine qui s'appelait Julia Angwin, qui avait identifié et contacté plus de 200 courtiers en données pour faire supprimer ou rectifier des informations, et s'était vu rétorquer qu'il fallait fournir davantage d'informations pour pouvoir les faire supprimer. Et alors, pour les dérives... Alors
en plus, elle avait réussi, mais elle n'avait jamais eu le droit de savoir quelles informations avaient été recueillies sur elle.
Ce qui est finalement exactement la même logique que quand vous faites une requête auprès des autorités pour savoir ce qu'il y a dans un fichier de police vous concernant. Donc on se rend bien compte que c'est un niveau d'opacité qui est assez toxique. Et deux exemples de dérives qui me semblent assez évidents. Un qui est un exemple qu'on peut vivre individuellement et puis un autre qui est plus collectif. L'exemple individuel, c'est celui que je cite dans le livre où on a qui est arrivé à deux femmes, une sociologue, Marie Ebling, et puis une journalistes du Washington Post, qui sont tombées toutes les deux enceintes, qui ont fait une fausse couche et qui, à la suite de cette fausse couche, se sont vues proposer pendant des mois, voire des années, tout un tas de publicités pour leur bébé marketing qui était finalement...
D'une certaine manière, ça prouve qu'ils n'étaient pas si bons. Donc, c'est presque un contre-exemple.
Ça prouve qu'ils ne sont pas si bons. Et on en vient à mon deuxième exemple, dans la mesure où on est enfermé finalement dans un profil numérique qu'on calcule de nous. On est enfermé dans une représentation de nous qui nous échappe un peu et sur laquelle on n'a plus vraiment de prise. Aux États-Unis, aujourd'hui, la police de l'immigration, qui est très aidée par tout un tas d'entreprises numériques, on aura peut-être aussi là aussi l'occasion d'en reparler, sont aussi épaulés par tout un tas de courtiers en données qui appliquent à des fins d'identification et d'expulsion des immigrés les mêmes outils qui sont les outils publicitaires déployés sur les citoyens américains. Donc on voit assez bien, finalement, la porosité extrêmement faible et de plus en plus fine, en tout cas, entre des finalités qui sont des finalités purement publicitaires et qu'on regarde finalement d'un air un peu distrait, et des finalités qui sont beaucoup plus inquiétantes pour les libertés publiques.
Et avec à chaque fois une marge d'erreur, ça, on l'a dit, on l'a redit, évidemment,
par les systèmes de fichage. Oui, il y a aussi ces prêtres qui arrivent sur Facebook et qui disent qu'ils sont célibataires et hop, ils reçoivent plein d'annonces de sites de drague parce qu'ils sont célibataires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Oui, est-ce que vous conseillez de se retirer des réseaux sociaux, finalement?
Alors, c'est compliqué. La question du retrait est très difficile parce que...
Vous vous répondez que non.
C'est une réponse assez imparfaite. Moi, je compare beaucoup les petits gestes numériques aux petits gestes pour l'écologie. C'est-à-dire que pour l'écologie, on achète bio, on trie ses déchets, on fait pipi sous la douche, ce genre de choses, en espérant que ça va sauver la planète.
Non, ça c'est pas bien.
On nous dit que c'est la meilleure chose à faire.
Sous la douche, mais c'est pas le sujet.
Et pour le numérique, on nous dit, il faut supprimer son compte Facebook, désactiver la géolocalisation, trouver comme ça tout un tas de parades pour essayer
après,
de.
Après, on n'a plus d'accès ni à Pôle emploi, ni à sa sécurité sociale.
Le souci, c'est qu'il y a un coût social à cette disparition, et puis surtout, on est finalement toujours très seul dans cette espèce de marchandage très illusoire avec des grandes plateformes dont on sait qu'elles violent de manière très routinière l'espèce de pacte faustien qu'elles nous font signer. Je prends pour exemple les multiples scandales qui ont émaillé la vie de Facebook ces dernières années. Et donc finalement, on est dans cette espèce de solitude technologique face à...
On fait quoi?
Et alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes. La première, c'est déjà d'essayer de remobiliser le langage qui est...
C'est votre grande proposition. Vous proposez, et vous n'êtes pas le seul, on va parler quand même de reconnaissance faciale parce que c'est quand même un sujet important, d'arrêter de parler de vidéoprotection, parce que c'est le terme. Hein. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une gare, vous êtes dans une zone vidéoprotégée et non vidéosurveillée. Et vous militez, vous n'êtes pas le seul sur les termes comme données personnelles, dont vous considérez qu'en réalité, ce sont des informations intimes et que si on les présentait en tant que telles, elles reprendraient leur juste valeur. Et même l'idée de vie privée, qui est en fait une traduction relativement malheureuse du terme américain privacy, est-ce qu'il est finalement si intéressant que ça? On a alors des penseurs plutôt définitivement à l'opposé, comme Yevgeny Morozov, qui aimerait qu'on parle uniquement de liberté ou de dignité, en tout cas.
C'est vrai que tout ce vocabulaire-là, notamment effectivement données personnelles, ça donne l'impression que on est juste en train de marchander ses propres données face à des entreprises. Et je pense que une rhétorique assez forte qu'on a pu entendre notamment dans l'affaire Snowden, ou en tout cas après l'affaire Snowden, la rhétorique du « j'ai rien à cacher », est assez liée justement à cette espèce de solitude programmée face à la machine. Ellul écrivait déjà dans les années 50 qu'on est seul face à la technique. Aujourd'hui, face à notre smartphone, on est encore plus seul finalement. Donc je pense qu'il est nécessaire de repenser un peu collectivement ces sujets-là. Et de la même manière sur la vie privée, moi quand j'entends Vint Cerf, qui est l'un des fondateurs d'Internet et qui aujourd'hui est évangéliste en chef, puisque c'est vraiment son titre de Google, et qui nous explique que finalement la vie privée n'était qu'une parenthèse de l'histoire. Alors ça fait mal de l'admettre, mais il n'a pas complètement tort. Dans
au moins c'est pas hypocrite. Laurence Angel sur ça, une petite réaction.
Oui, non, mais c'est ce que je trouve important, c'est aussi simplement d'en parler, parce que par rapport à ce qu'on pouvait se dire il n'y a pas moins de 5 ou 6 ans, on était encore dans un angélisme total face aux acteurs du numérique. Personne n'osait même dire qu'il y avait ces risques. On était encore dans l'idée que le numérique, le net, la neutralité du net, enfin tout le vocabulaire du numérique était un vocabulaire positif. Et il était hors de question alors de parler d'une taxation des cafés, mais de parler de défense d'un certain nombre de libertés, ce n'était que des gros mots. Donc le fait simplement que vous écriviez ce livre, qu'un certain nombre d'autres en parlent, est déjà aussi un progrès. Ça ne veut pas dire qu'on a la solution technique pour y arriver, mais ça permet que chacun soit un tout petit peu plus conscient du monde dans lequel il vit. Et on voit bien aussi que le monde géré par le privé n'est pas plus facile, n'est pas plus fait de liberté qu'un monde géré par un État qui serait surpuissant.
Vous le dites, Olivier Tesquet, on a effectivement plusieurs plaintes qui sont déposées aujourd'hui par la CNIL, par la Quadrature du Net, qui sont souvent vues comme des gauchistes extrémistes, mais vous le dites, il y a de plus en plus des poches technocritiques au sein même de la Silicon Valley.
La CNIL n'est pas le gauchisme.
Non, mais je veux dire, qui émane même des entreprises dont on parle, Amazon, chez Google, chez Facebook, on a interviewé Tristan Harris. Un petit mot quand même sur la reconnaissance faciale, qui est au cœur de l'enjeu des États, pour le coup. On parle comme si c'était très lointain et très effrayant du système de reconnaissance faciale en Chine et du système de crédit social. En France, on est quand même sur des problématiques qui se rapprochent de plus en plus, avec des systèmes de reconnaissance faciale qui ont été testés dans les stades, qui ont été proposés notamment par Christian Estrosi dans les lycées à Nice. Il y a eu la question d'un référendum, d'un moratoire. On en est où en France de cette question de la reconnaissance faciale, concrètement ?
Alors sur la France spécifiquement, les dernières déclarations officielles entre guillemets sont celles de Cédric O, juste avant Noël, qui nous expliquait que finalement le cadre d'expérimentation était nécessaire, ce qui est une manière de dire que la technologie est là, qu'on travaille, comme je l'entends très souvent, et chez les industriels et dans les ministères, sur l'acceptabilité de la technologie, ce qui est une manière assez pudique de parler de son imposition. Donc la situation c'est celle-ci, parce qu'on a des acteurs industriels qui sont très performants sur la biométrie, je pense à IDEMIA, je pense à Thales qui a racheté Gemalto, donc il faut les faire vivre quelque part.
Ces entreprises françaises.
Voilà, ces entreprises françaises. Les positions qui éliminent d'un revers de la main la reconnaissance faciale sont considérées aujourd'hui comme irrationnelles. En tout cas, c'est là aussi la façon dont elles sont présentées. Et puis au niveau européen, j'ai entendu parler ces derniers jours d'une question de moratoire qu'on pourrait imposer au niveau de l'Union. Alors, j'émettrai quand même un gros bémol sur ce moratoire tel qu'il a été proposé, c'est qu'il prévoit deux exceptions aujourd'hui, que sont les finalités de recherche et les finalités policières, ou sécuritaires en tout cas, qui sont précisément les deux cadres dans lesquels la reconnaissance faciale est testée, et testée aujourd'hui dans des conditions très discrétionnaires, et notamment parce que vous avez des entreprises, encore dans cet exemple d'hybridation entre le public et le privé, vous avez tout un tas d'entreprises qui vont démarcher des collectivités territoriales pour leur offrir du matériel, pour leur offrir des caméras intelligentes, pour leur offrir des capteurs, etc. Tout ça se fait en contournant d'un côté la commande publique, qui est quand même censée garantir que tout ça se fait dans les règles, et en contournant, de fait, le débat public nécessaire, surtout dans un espace urbain qui est habité par des personnes et qui devrait accompagner ce type de technologie.
Et Cédric O qui refuse désormais de s'exprimer sur ce sujet depuis au moins la fin de l'année dernière.
Mais sur l'ensemble de ces questions, est-ce que si on veut être un peu avocat du diable, Olivier Tesquet, on ne peut pas dire d'une part, est-ce qu'on n'était pas très naïf de penser que tout ça ne serait pas dans la surveillance, premier point. Deuxième point, vous parlez de pacte faustien. Après tout, on peut aussi dire que c'est tout simplement une sorte d'accord qui est signé, accepté par la plupart. C'est au fond la gratuité contre un échange de données, qui est d'ailleurs souvent automatisé. si le débat c'est on doit payer 10 euros pour avoir Facebook ou Google sans données, est-ce que vous serez suivi par le grand public? C'est pas évident. Dernier point, est-ce que tout ça n'est pas, au lieu de s'obséder par la question des données comme on le fait beaucoup en France, est-ce que la priorité c'est pas d'avoir des acteurs français plutôt qu'au fond de tout faire pour que ça n'arrive pas en France et que ce soit toujours les Américains qui gagnent ces batailles contre nous?
Alors sur la question de la naïveté, je ne sais pas si on a été naïf, je pense un peu. Je fais partie de cette génération qui a beaucoup cru justement à la libération par le numérique, qui a vu les printemps arabes et qui était propulsé comme ça par les réseaux sociaux d'un œil très enthousiaste. Et puis bon, ensuite, il y a eu un peu la douche froide, la reprise en main, d'abord par les régimes autoritaires et puis ensuite par les démocraties libérales. On est à la fois naïf, mais aussi participant. C'est-à-dire que la question de notre propre désir à participer à ces dispositifs et à les mettre en place. Quand vous achetez une caméra Ring d'Amazon et que vous faites de votre domicile très concrètement aux États-Unis, parce qu'il y a des partenariats avec la police, l'annexe d'un commissariat.
Ouais, c'est un peu une exagération, mais en fait.
Ah non, c'est pas une exagération. Non,
en même temps, c'est le choix que vous faites. Si vous voulez pas être sur Facebook, vous n'êtes pas sur Facebook. Personne ne vous oblige à être sur Facebook. Donc, il y a un moment, comment vous pensez pouvoir gagner même l'opinion publique française sur ces idées qui sont extrêmes. Tout le monde a envie de ça. Et donc, que qu'on signe l'alerte, certes.
Alors, c'est là où je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que. Sur les données personnelles, j'écris sur ces questions-là depuis suffisamment longtemps pour savoir que quand on parle de données personnelles,
on a déjà perdu la moitié. 0,5% de l'opinion qui vous suit.
Mais précisément parce que ce vocabulaire-là est très dépolitisant. Aujourd'hui, ce qui se joue, et je pense que la reconnaissance faciale est un très bon exemple de ça, ce qui se joue, c'est l'invasion des corps. On n'est plus en train de parler des données personnelles hypothétiques, de choses très, très...
Face au risque d'attentat à la gare de Lyon, vous ne gagnerez jamais. Enfin, cette bataille, vous ne pourrez pas la gagner.
C'est exactement ce qu'il dit, ouais.
C'est précisément la raison pour laquelle il faut essayer de résister à l'influence de ces discours sécuritaires.
Vous ne voulez pas qu'on puisse avoir des caméras qui éventuellement évitent un attentat à gare de Lyon?
J'ai l'impression d'entendre Christian Estrosi.
Non, mais la question, vous faites l'avocat du diable. Non, mais est-ce qu'on peut dire deux choses? Il est faux, tiens, le passe peut-être, le pacte, dans ce sens que tout le monde n'a pas conscience de ce qu'il laisse dans ce pacte. D'une première partie. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas conscience, par exemple, que quand il installe une caméra Ring, c'est une caméra qui va tout enregistrer, qui va potentiellement être regardée, écoutée, pas uniquement par des robots, mais par des humains. Et deuxième chose, et c'est l'argument quasiment de toutes les institutions de liberté publique, l'idée, c'est de se dire, oui, peut-être qu'on peut inviter un attentat à gare de Lyon, et que se passe-t-il si on a un changement de régime demain ou après-demain?
C'est-à-dire
l'État.
C'est surtout qu'on est face à des technologies qui effectivement échappent à tout contrôle. Je reprends l'exemple des caméras Ring aux États-Unis qui non seulement sont accessibles par 600 forces de police locale qui avec un identifiant et un mot de passe peuvent accéder à ce qui se passe devant chez vous, où il y a des incitations financières pour vous équiper, ce qui montre bien à quel point finalement c'est comme si vous achetiez un vélo électrique.
Oui, encore plus en Chine et encore plus
évidemment,
en Iran.
Justement, ce repoussoir chinois est assez intéressant. Et aux États-Unis, ce qui est en train de se passer avec ce système d'Amazon, qui est en train de se transformer en tant qu'entreprise en véritable acteur le plus inquiétant de ce nouveau monde numérique, c'est finalement la création d'un réseau de vidéosurveillance clandestin qui échappe à tout contrôle. Parce que qui va mettre son nez là-dedans? Prenons l'exemple la semaine dernière de cette société américaine dont personne n'avait jamais entendu parler, qui a été nommée dans le New York Times, qui s'appelle Clearview, qui avait mis au point, en aspirant tout un tas de données, de visages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., une base de données de 3 milliards de visages, ce qui est 7 fois et demi plus gros que la base de données de reconnaissance faciale du FBI. Et c'est pas fait avec des moyens colossaux, c'est une start-up et des bouts de ficelle. Et donc finalement, le fait qu'on ait l'émergence d'acteurs comme ça, qui peuvent être des acteurs absolument pas contrôlés, de tailles tout à fait diverses, et qui échappent complètement à tout contrôle, pose des questions quand même, je trouve, relativement importantes dans la façon dont on devrait les appréhender.
Bien.
Merci beaucoup Olivier Tesquet. Alors, vous pouvez vous
le livre s'appelle
votre avis.
À la trace.
Mais oui,
enquête sur les nouveaux territoires de surveillance. Parallèles. Rappelons aussi le livre sur Julian Assange.
Et on rappelle en deux mots quand même que Julian Assange a été libéré, a été sorti du quartier d'isolement de la prison dans lequel il était depuis qu'il avait été incarcéré à la demande de ses avocats et de ses co-détenus.
Frédéric, vous vous êtes fait traiter de Christian Estrosi tout de même.
Il l'a bien cherché.
C'est extraordinaire.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup.
Cette émission, on entend de tout.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup. Je crains de Christian Estrosi dans la police, dans l'administration.
C'est tout à fait.
Et pas que chez les gens, chez les Français aussi, je pense.
Heureusement, il y a Olivier Tesquet face à tous ces gens. Dans un instant, on retrouve Laurence Ingel, la présidente de la Bibliothèque nationale de France, juste après Darkness. C'est pas un code secret au passage pour introduire la BNF, rassurez-vous. Extrait du nouvel album du rappeur américain Eminem sur une reprise de la chanson Sound of Silence. de Simon & Garfunkel, Eminem veut choquer les consciences et affirmer son engagement contre le port d'armes à feu aux États-Unis. Un morceau sur la solitude d'un homme prêt à commettre un massacre dans un album résolument engagé et noir, et des rimes qu'il veut lui-même comme des lames affûtées. If I pop any caps, it better be off of vodka. Round after round after round, I'm getting loaded. That's a lot of shots, huh? I don't wanna be alone in the darkness. Yeah. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness anymore. Now I'm staring at the room service menu off of Benzo. I can hear the music continue to crescendo. I can see the whole fucking venue from my window. That's when you know you're schizo. Cause I keep peeking out the curtain from the hotel. The music is so loud, but it's almost as though I don't hear no sound. I should get ready for the show now. Wait, is this the whole crowd? I thought this shit was sold out. But it's only the opening act. It's early, don't overreact. There's something told me relax and just hope for the show to be packed. Don't wanna hit the stage before they fill each row to the max, cause that'd be totally whacked. You can't murder a show nobody's at. But what if nobody shows? Panic mode, bout to snap and go motherfucking wacko at any second. About to cancel the show just as fans below rush the entrance. Plan is to go direct-ish, cameras in all directions. The press is about to go ape-ish, bananas on all the networks.
France Culture, 18h57 précisément. Laurent Saint-Gel, la présidente de la Bibliothèque Nationale de France, et l'invité ce soir de Christian Estrosi, de Soft Power sur France Culture en direct avec Claire Baumeler du Figaro, Zoé Sfès de France Culture, Olivier Tesquet qui va rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Deux parties dans cet entretien avec vous, Laurent Saint-Gel. Les bibliothèques, comment elles évoluent, leur rôle, leur fonction sociale, notamment liées au numérique. On y reviendra sur ce sujet justement. Les bibliothèques demain aussi, les bibliothèques le dimanche. Mais avant de parler généralement des bibliothèques, on commence par la Bibliothèque nationale de France, l'institution que vous présidez. On pourrait peut-être partir d'un exemple. Il y a des expositions qui ont lieu en ce moment à la Bibliothèque nationale de France, notamment une exposition sur Tolkien, une sorte de mélange des genres finalement, comme si la bibliothèque en général, la Bibliothèque nationale de France en particulier, était un endroit où le patrimoine était d'une certaine manière ouvert, où on pouvait accueillir Tolkien et où on pouvait accueillir aussi le cinéma, le jeu vidéo, les jeux de rôle, la BD, le manga, la science-fiction. Bref, un des endroits où la culture sortait de sa hiérarchie, de ses cloisons.
Oui, ça, je pense que c'est une perception très juste des bibliothèques et de la Bibliothèque nationale en particulier. Enfin, des bibliothèques nationales d'ailleurs en particulier, qui ont pour mission première d'accueillir justement tout ce qui est produit dans un pays, donc en l'occurrence en France. Et vraiment, ce tout se retrouve de ce fait dans les collections. Donc, aller vers Tolkien, donc vers la fantaisie comme genre, aller vers la BD, aller vers le jeu vidéo.
Avant même que les musées
toujours
d'art
avant,
se
toujours
les approprient.
Toujours avant, parce que le musée, c'est le lieu d'une forme d'histoire du goût, alors que la bibliothèque, c'est vraiment le lieu de l'accueil. Vous avez raison d'utiliser ce terme, une forme d'empreinte du monde tel qu'il est, à travers notamment le dépôt légal. C'est-à-dire que vraiment, on accueille...
Le dépôt légal, c'est pareil, on accueille tout.
Ah ben c'est le principe même
c'est
du dépôt
même
légal.
La loi.
C'est la loi, vous savez, ce dépôt légal, il existe depuis un certain nombre d'années en France. C'est une création française, créée par François Ier en 1537.
Ça fait assez longtemps.
Un certain nombre d'années, avec cette idée très proche à ce grand moment de la Renaissance de l'humanisme, que tout ce qui est produit a une valeur, du fait même qu'il ait été produit. Donc c'est vraiment cet écho de la création éditoriale, en l'occurrence le livre, lorsque le dépôt légal est créé, mais progressivement tous les supports de production. Et donc tous ces supports de production entrent littéralement, physiquement, tous les jours, à la Bibliothèque nationale. Et depuis François Ier, cet outil a été repris par l'ensemble des pays dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et voilà, donc avant même ce jeu vidéo, je donne toujours l'exemple de la photo parce que c'est important de prendre un petit peu de recul pour voir comment les choses se sont construites. La Bibliothèque nationale de France est la plus importante collection de photos. Parce que la photo entre à la bibliothèque depuis que la photo existe. Et avec cet appétit de reconnaissance, de d'intégration dans des collections patrimoniales de tout ce qui existe.
Même à l'époque où Théodore Adorno ne légitimait pas la photo comme étant un art. Claire Baumeller.
Oui, j'ai vu que en 2018, 105 000 documents, 105 000, dont 82 000 livres avaient été reçus en dépôt. Vous avez déjà 40 millions de documents conservés. Est-ce que tout est digne d'intérêt? Est-ce que tout doit être conservé?
Alors, c'est même plus que ça, parce que c'est 300 000 documents, enfin en tout cas 82 000 livres en effet, mais si on y ajoute tout ce qui est périodique, et puis les DVD, les CD, pour ce qui existe encore des CD, mais les vinyles.
Et les sites internet aussi.
Et les sites internet, donc on archive le web.
Vous avez plein de fonds qu'on connaît peu, moi je découvre au fur et à mesure, vous avez donc 17 000 jeux vidéo, vous avez tout le fonds par exemple des captations du théâtre public en France depuis que ça existe, c'est chez vous. Vous avez toute une série de fonds qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup et qui vous posent des problèmes de stockage, paraît-il.
Bien sûr, l'histoire des bibliothèques, d'une manière générale, c'est un problème d'espace, enfin, comme chez soi. Hein, on achète des livres et on a besoin de toujours un petit peu plus de place pour les conserver.
Sauf qu'on n'en achète pas 80 000 par an.
On n'en achète pas 80 000. D'ailleurs, ceux-là sont déposés, ils ne sont pas achetés. Oui, donc le problème de la place existe toujours. Mais je reprends la question de Claire Baumeller. Est-ce que tout mérite d'être conservé. Ce dépôt légal qui renvoie à quelque chose d'un petit peu vertigineux, c'est sûr, qui pose un certain nombre de problèmes pratiques, c'est sûr, renvoie aussi à cette idée qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, tout mérite d'être conservé parce que c'est la production, notre production, la production des êtres humains qui habitent et qui produisent ici, les artistes, les auteurs et plus largement tous ceux qui produisent quelque chose. Cela mérite d'être conservé. Au moment où la photo rentre à la BNF, sans doute, la plupart des personnes qui entouraient la bibliothèque se disaient, mais enfin, à quoi bon? Le bibliothécaire s'intéresse vraiment à tout ce qui existe. 100 ans après, la photo est devenue un art hautement considéré, un petit peu plus d'un siècle après, hautement considéré et est devenue très présent dans les...
Alors, si on garde tous les exemplaires du nouveau Folio et du nouveau J'ai lu, du nouveau Pocket, toutes les BD, édition 1, 2, 3, etc., si tout ça est gardé, il faut des réserves très vastes et éventuellement de nouvelles réserves.
Oui, c'est l'histoire de la Bibliothèque nationale est organisée en fonction de ses besoins. L'histoire sur son site historique, rue de Richelieu, dont on reparlera peut-être, c'est l'histoire d'une extension progressive du domaine de la lutte, on pourrait dire. La création du site François Mitterrand et l'acte très fort qu'a eu François Mitterrand en décidant la création d'une nouvelle bibliothèque.
Dominique Perrault,
dans le 13e arrondissement. Au point de départ, c'est l'absence de place. Mais à ce moment-là, François Mitterrand raconte une autre histoire en plus de ce besoin de place. Il décide de transformer la bibliothèque. On va parler de la transformation des bibliothèques, mais d'en faire une bibliothèque ouverte à tous. Il évoque aussi à ce moment-là, je pense pas qu'il pense déjà à ce que va devenir la bibliothèque numérique, mais il pense au numérique, à la transformation numérique des bibliothèques. Donc il fait de cette nécessité un acte politique très fort. Et aujourd'hui, oui, en effet, on est de nouveau arrivé à ce point d'équilibre un petit peu
et
fragile.
Et on fait quoi? On ouvre de nouvelles réserves? Où?
On ouvre de nouvelles réserves, on ne sait pas encore où, on y travaille.
Près de Paris, on essaye.
Hors de Paris.
Mais près de Paris, malgré tout.
En tout cas, il y aura un besoin de ne pas être trop loin de Paris. On n'est pas obligé d'être absolument à proximité. Aujourd'hui, on sait se transformer.
Le site de Bussy-Saint-Georges, c'est ça?
Le site de Bussy-Saint-Georges, il a été construit en même temps que le site François Mitterrand, par Dominique Perrault aussi. Et il est déjà plein. Ouais. Ceci étant dit, au moment où la bibliothèque dans le 13e se déploie, on imagine avoir de la place pour les 30 prochaines années. Ça fait 20 ans que la bibliothèque a été ouverte, donc ça a été un petit peu plus vite que prévu. Mais à ce moment-là, parce qu'on se trompe toujours sur les prévisions, on pensait qu'il n'y aurait plus de livres d'ici une quinzaine d'années. Donc en réalité, le nombre de livres n'a jamais cessé d'augmenter. Donc on cherche un site. Et puis, je dirais, dans une certaine mesure, comme en 88, lorsque François Mitterrand annonce cette nouvelle bibliothèque, l'idée que je poursuis est de profiter de ce besoin pour traiter un certain nombre de questions qui sont au devant de nous, et en l'occurrence s'occuper, comme on n'a jamais réussi à les faire jusque-là, des collections de presse, parce qu'il y a un enjeu sur la conservation de la presse qui est, du point de vue de la démocratie, évidemment extrêmement important. Ce sont des collections qui sont très fragiles, qui sont encore assez peu numérisées, qui aujourd'hui entrent nativement numériques dans les collections.
Qui sont très massives.
Mais qui sont très massives, bien sûr, et notamment la presse de la Troisième République est vraiment dans un état de fragilité extrême. Donc profiter de ce projet, la construction d'un nouveau centre de conservation, et en l'occurrence permettant de traiter notamment les collections de presse, pour aborder cette question de la conservation des collections de presse, de ce rôle de la presse dans le fonctionnement d'une démocratie, sujet qui nous intéresse beaucoup dans les bibliothèques.
Et quelle est la part de vos collections qui est numérisée ?
Alors, écoutez, je vous fais une espèce d'annonce avant l'annonce. On va arriver là, et on devait l'annoncer la semaine prochaine, donc on peut l'annoncer dès aujourd'hui.
Dès ce soir.
Dès ce soir, on arrive au 6 millionième document dans la bibliothèque numérique Gallica, et on a un peu plus de 40 millions de documents. Donc si on fait une règle de 3...
Assez simple, donc un
petit peu plus de 10%, mais ça ne reflète pas la réalité de ces collections, parce que...
On fait des choix, et là, pour le coup...
Alors, pour la numérisation, on fait des choix, en effet.
Sur quelle base ?
Alors, sur la base des usages, toujours. Qu'est-ce qui est
finalement ? Qu'est-ce qui est moins intéressant de numériser aujourd'hui ?
C'est pas seulement intéressant. C'est-à-dire que les critères sont toujours multiples dans une bibliothèque où on a le goût de la rigueur et du croisement des critères.
Et de l'exhaustivité, enfin, d'une sorte d'universalité.
De l'exhaustivité
aussi.
Et d'universalité, oui, mais dans ce choix, puisque là, on fait un choix, il y a des questions de conservation. Est-ce que des documents sont à ce point fragiles qu'ils doivent être numérisés pour, d'une part, être mieux conservés, ou surtout pour être moins manipulés, donc pour avoir plus de chances d'être conservés de manière pérenne. Sont-ils particulièrement beaux et justifient-ils d'être en ligne pour pouvoir être accessibles à un public beaucoup plus large, puisqu'évidemment, les gens qui ont accès aux documents numériques à travers notre bibliothèque numérique sont beaucoup plus nombreux que ceux qui viennent les consulter en salle de lecture. Et puis, un rapport à l'usage en fonction des besoins de la recherche, des besoins des chercheurs en particulier.
On peut même imprimer un livre qui vient de Gallica. Oui. C'est un projet que vous avez. J'ai acheté, par exemple, Les Poètes Maudits. Alors, évidemment, c'est des livres qui ne sont plus sous droit, hein, qui sont dans le domaine public.
Absolument.
En l'occurrence, là, c'est Verlaine. Et là, on reçoit chez soi un petit livre qui a été imprimé spécialement pour vous à partir des collections Gallica. Comment vous faites ça ?
On travaille en partenariat avec des éditeurs, en l'occurrence principalement Hachette, avec lequel c'est le premier éditeur avec lequel on a passé ce contrat il y a déjà quelques années. Et là, on suit l'évolution des pratiques, parce que au tout début de ce projet, on parlait déjà d'édition, d'impression à la demande. Ça restait assez mineur et ça se développe maintenant vraiment assez vite. Et l'année dernière, on a ainsi répondu à la demande de plus de 71 000 lecteurs, enfin en tout cas,
qui veulent...
on a réédité, réimprimé un peu plus de 71 000.
C'est toujours 000, l'original, juste...
Oui, c'est un facsimilé, voilà,
C'est un facsimilé. Quel est le budget global de la Bibliothèque nationale de France ? Ça fait combien par rapport au budget du ministère de la Culture ? Et posons la question tout de suite, pourquoi ça coûte si cher la Bibliothèque nationale de France ?
Alors, tout est relatif, hein, quand on dit que quelque chose coûte trop cher. D'abord, le ministère de la Culture pèse lui-même assez peu dans le budget de l'État, comme vous le savez.
Mais vous pesez beaucoup dans
on pèse dans le budget du ministère de la Culture. C'est le plus important budget.
De loin, ouais.
De loin. Pour deux raisons.
Vous
m'avez posé la question. Et voilà, c'est un peu plus de 200 millions d'euros le budget, donc ça n'est en effet pas anodin. Et en fait, quand on se pose la question du coût, ça renvoie à deux questions, celle du coût dans l'absolu, et puis deuxième sous-question, c'est que c'est un modèle économique qui dépend quasi exclusivement de la recette publique. Il n'y a pas de monétisation.
Enfin, un petit peu, puisqu'il faut quand même payer l'entrée quand on est chercheur ou autre.
Oui, tout à fait, mais ça représente assez peu dans le budget. Dans le budget de la BNF, c'est à peu près 10%
sur les 200 millions.
Sur les 200 millions qui viennent de recettes propres, pas seulement d'ailleurs le fait de payer son ticket d'entrée. mettrais pour la bibliothèque ou pour aller voir une exposition, mais un petit peu de mécénat et un petit peu d'autres recettes.
On parlera peut-être tout à l'heure des souscriptions publiques et du mécénat Absolument. Populaire.
Oui. Donc, mais il n'empêche qu'en effet, on peut considérer que c'est assez cher. En tout cas, c'est comme ça que certains nous le disent.
Là, je sens la discussion avec les conseillers budgétaires du ministère de l'économie.
Oh, oui, ça toujours. Les discussions budgétaires sont toujours fortes. Enfin, puisque nous sommes à la radio, ça coûte beaucoup moins cher que la radio ou que la télévision. Ça reste quand même assez...
1-0, la balle au centre, continue.
Un coût assez faible de ce point de vue. Ça coûte beaucoup parce que c'est un petit peu une industrie de main-d'œuvre. On évoquait tout à l'heure le dépôt légal. C'est plus de 80 000 monographies, 100 000 documents.
PNF, c'est 2 000 agents, c'est ça?
C'est 2 000 agents. Mais justement, c'est une industrie de main-d'œuvre. C'est-à-dire que ces livres qui arrivent tous les jours, il faut les accueillir, les cataloguer, les apporter en salle de lecture. Donc une grosse masse de documents qui arrivent tous les jours, un service qui est rendu de manière assez forte puisque c'est plus de 4000 places de lecture, donc il faut effectivement servir ces personnes qui viennent à la bibliothèque avec une amplitude
horaire
qui est assez large puisqu'on est ouvert tous les jours y compris le dimanche et jusque 20h, 19h le dimanche, donc on répond à un certain nombre de besoins et parce que il y a ces 40 millions de documents dont il faut s'occuper. On a 300 artisans d'art. Enfin, si vous voulez, la taille, la profondeur historique, la taille physique du bâtiment explique l'essentiel.
On a bien compris, donc les 200 millions sont très utiles, mais vous en voulez davantage, puisqu'il y a un projet, et je laisse la parole à Claire Baumeller qui connaît bien ce sujet, qui coûte encore plus cher, alors c'est qu'une fois, vous allez me dire, oui. Les travaux de la rue de Richelieu.
Ça fait partie des très grands travaux actuellement en cours en France. On en parle moins que le Grand Palais, mais ils sont bien là, ça fait des années que le site historique de la BNF, rue de Richelieu, est en travaux et devrait ouvrir en 2021, totalement transfiguré. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va se passer dans ce site Richelieu?
Et pourquoi ça coûte 260 millions d'euros?
Et qui effectivement
250,
va représenter 250 millions d'euros, ce qui ailleurs pourrait faire polémique.
Ah, alors ailleurs qu'en France, vous voulez dire?
Pour un autre projet. C'est-à-dire, ce sont des sommes colossales.
Oui, alors c'est 250 millions d'euros pour 60 000 mètres carrés de bâtiments. Donc, il y a un rapport à la matérialité d'un bâtiment qui explique ce coût. Et 250 millions d'euros, vous l'avez dit, sur plusieurs années.
Mais sur le fond, la transformation, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, en fait, on restaure d'abord un bâtiment qui est absolument magnifique. Donc là, c'est le devoir vraiment de l'État propriétaire, patrimonial, avec des décors somptueux, des décors qui datent du 16e, du 17e, du 18e, du 19e et du 20e siècle. Et les gens seront, quand ils viendront visiter, je n'en doute pas, tout à fait séduits par ce bâtiment. Ça, c'est le premier objectif. Le premier objectif, c'est d'abord de faire en sorte qu'il ne s'écroule pas, de faire en sorte qu'il soit aux normes, qu'il soit en 220 volts et pas en 110 volts. Enfin, je raconte toujours cette histoire parce qu'il faut comprendre pourquoi on dépense autant d'argent. Mais précisément, on rejoue aussi un petit peu l'histoire de Tolbiac. On ouvre cet endroit qui était réservé aux chercheurs pour que tout le monde puisse y venir parce que ce bâtiment va pouvoir se visiter et parce que la bibliothèque va devenir là une bibliothèque publique. Et puis enfin...
Ça s'ouvre, c'est un site qui s'ouvre.
Qui s'ouvre complètement, qui s'ouvre totalement.
Ce n'est pas le cas de l'INHA par exemple qui est aussi au Richelieu, la salle Labrousse qui n'est
qui est une bibliothèque de recherche, mais la bibliothèque nationale reste une bibliothèque de recherche aussi. Enfin, bien sûr. Je pense qu'on a vraiment... On aurait tort d'opposer les uns aux autres. On a besoin de lieux de travail pour les chercheurs. On a besoin que ces collections puissent servir à la recherche. Donc, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Mais le site a changé d'ampleur. D'abord, cette histoire s'inscrit dans la suite de la création de Tolbiac, donc avec beaucoup de place offerte aux chercheurs supplémentaires, donc la possibilité de réécrire encore une fois ou de rejouer cette partition sur le site historique. Et puis enfin, je pense une vocation symbolique qui me paraît vraiment important, parce qu'on va créer un musée de la Bibliothèque nationale de France. On dit tout le temps que ces collections, ces 40 millions de documents sont pour beaucoup des documents assez extraordinaires. On remonte donc très très en amont dans l'histoire. C'est le trône de Dagobert, c'est les trésors royaux, c'est
la robe de Sarah Bernhardt.
La robe de Sarah Bernhardt, parce qu'il y a les collections de spectacles, les manuscrits évidemment, Proust, Victor Hugo.
Les monnaies et médailles.
Alors, elles sont tellement belles ces collections que quand elles viennent de certains pays où on les a empruntées, se pose parfois la question de rendre ces manuscrits. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, comme vous le savez, il y a eu un épisode fameux de retour en
Nicolas
Corée
Sarkozy, ouais.
de manuscrits venus de la Bibliothèque nationale. C'est un sujet qui est vraiment intéressant. Les collections de bon nombre de musées.
Ça, c'est un euphémisme.
Non. C'est une réalité. La question de la restitution, c'est une question qui ne règle pas l'intérêt qu'on peut porter à cette question. Les collections sont universelles. Pas seulement parce qu'il y a eu la colonisation. D'ailleurs, on a assez peu, pour ce qui concerne la Bibliothèque nationale de France, d'œuvres qui viennent d'Afrique ou des pays du Maghreb. Et même pour ce qui concerne l'Asie, puisque je parlais de Corée, une bonne part de ces collections sont des collections liées, elles aussi, au dépôt légal et pas des collections patrimoniales au sens où on l'entend dans les débats qu'on a eus depuis l'année dernière. Sur ce sujet. Mais ces collections sont universelles depuis longtemps parce que la bibliothèque, là aussi, s'intéresse à tout, parce qu'il y a une histoire des relations avec un certain nombre de pays, que ces manuscrits ou que ces documents ont pu être achetés. Les histoires sont multiples. Il n'y a pas de dimension univoque à la question des collections universelles. Donc c'est intéressant parce que il faut y travailler. Il faut travailler sur l'origine de ces collections. Il faut surtout les partager. On travaille, les bibliothèques ont ceci aussi de particulier, de travailler toutes ensemble dans des réseaux qui, pour toutes les raisons du monde, notamment le catalogage, vraiment notamment cette question de l'organisation des savoirs qui est l'ADN premier des bibliothèques, elles travaillent entre elles de manière extrêmement intense et elles travaillent entre elles sur le partage de leurs histoires. Et en l'occurrence, à la Bibliothèque nationale, on a créé depuis 2017 une collection numérique qui s'appelle Patrimoine partagé et qui vise au-delà ou à côté ou de la question des restitutions à travailler avec les pays qui ont une histoire partagée avec la nôtre. Et ça vaut pour des pays européens. On a travaillé avec les Britanniques sur les Moyen-Âge anglo-normands du 8e au 13e siècle, mais on travaille avec les Israéliens sur le patrimoine en hébreu, on travaille avec les Brésiliens sur le patrimoine du Brésil, avec la Pologne, avec les Américains. C'est des sujets vraiment très importants avec les pays du Moyen-Orient.
Claire Baumeler.
Oui, on parlait tout à l'heure de cabinet de monnaie et médailles. Je crois que vous avez déposé plainte lundi pour la disparition de 3 objets du département. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Parce
que c'est pas la première fois que ça arrive.
Nous donner le nom de l'heureux.
Non, mais c'est pas la première fois que ça arrive.
Non, mais il y a une enquête qui est en cours.
Que des choses disparaissent à la BNF. Bon, pas particulièrement à la BNF.
Oui, pas particulièrement à la
BNF. C'est des choses récurrentes, ça.
Alors récurrente, ça supposerait que ça arrive très souvent, donc ça n'est pas tout à fait le cas. Il y a effectivement à la Bibliothèque nationale, comme dans toutes les institutions, des cas épisodiques, heureusement, de disparition. Et là, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'il en est de ces trois pièces.
Une dernière question sur la BNF avant de parler des bibliothèques. Vous avez dit, vous avez des millions d'objets, des millions de livres, etc. Vous êtes parmi les plus grandes bibliothèques au monde. On ne va pas comparer parce que c'est difficilement comparable avec la bibliothèque du Congrès, par exemple, aux États-Unis, la bibliothèque d'Harvard, celle de Yale, qui sont aussi dans des nombre assez proche. La grande différence, c'est que nous, on a tout, puisqu'il y a le dépôt légal, donc des millions d'objets, dont beaucoup, il faut bien le dire, ne sont pas forcément très consultés ou très utiles. Alors que les grandes bibliothèques américaines, par exemple, ont des politiques d'acquisition, d'achat d'œuvres précises, qui fait qu'on peut à peu près travailler sur n'importe quel pays du monde, sur à peu près n'importe quel sujet, quand on est à Harvard ou à la Bibliothèque du Congrès. Alors qu'en France, on peut travailler sur la France et pas forcément sur grand-chose d'autre. Alors, comment on peut changer cette question de la politique d'acquisition
Je rectifierai un petit peu dans ce que vous dites. Vous parlez d'une part des bibliothèques universitaires, et elles ont effectivement des collections qui sont encore un peu plus que dans une bibliothèque nationale liées aux recherches qui se font dans l'université elle-même. Donc il y a un lien.
Mais Harvard, c'est très universaliste, donc il y a un peu tout quasiment.
Oui, parce que c'est une très grosse bibliothèque, mais elles n'ont pas tout, surtout. Elles ont, en fonction des centres d'intérêt qui sont ceux des chercheurs de l'université. À la bibliothèque du Congrès, vous ne trouverez pas davantage qu'à la bibliothèque nationale, puisqu'elle fonctionne comme nous sur le dépôt légal. Ouais. Donc c'est difficile de comparer les collections d'une bibliothèque nationale avec celles.
Mais sur la politique d'acquisition, on a peu d'argent pour acheter à la Bibliothèque nationale de France.
Là aussi, tout est relatif. Vous me dites d'un côté qu'on coûte très cher et peut-être trop cher, et de l'autre qu'on n'a pas suffisamment d'argent.
Donc, non, mais ça veut dire que c'est peut-être pas au bon endroit que sont mis. Ça reste compliqué, sans doute.
Ah non, ça, je pense qu'on ne peut pas dire que ça n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire, l'argent, il est mis à l'endroit des missions qui sont les nôtres. Donc d'abord, le dépôt légal. Et puis, ensuite, la relation avec les chercheurs et donc avec des acquisitions qui ne sont pas seulement franco-françaises. Donc effectivement, comme les collections, les champs documentaires qui sont ceux de la bibliothèque sont absolument universels. Là, je vous rejoins, c'est difficile d'avoir tout sur tout. Mais nous continuons d'avoir une politique d'acquisition assez diverse et pas seulement en français.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Actuellement, je travaille à Saint-Avertin, dans une petite médiathèque à côté de Tours, où je suis chargée du numérique, ce qui est très vague, en fait, finalement. Je m'occupe autant de jeux vidéo que de sites internet, réseaux sociaux, de réalité virtuelle, d'animation avec les usagers. C'est très, très vaste, mais je suis vraiment orientée sur le numérique. Donc, ça nous importe aussi de montrer que les bibliothèques sont des lieux ouverts à tous. Peu importe qui on est, ça fait partie des rares lieux où on peut rentrer sans qu'on nous demande des papiers ou de s'inscrire ou de payer ou voilà, on a un lieu un peu particulier. C'est vrai que l'inclusion, c'est aussi de montrer que même au-delà de la bibliothèque, dans la société, chacun a sa place, qu'on souffre d'un handicap, qu'on soit d'une origine étrangère, peu importe.
À l'instant, Alice Bernard, présidente de l'Association des bibliothèques de France, qui expliquait comment elle voyait, au fond, y compris elle-même comme bibliothèque, le rôle d'une bibliothèque lieu ouvert, accueillant, pour un lieu inclusif, qui accueille des sans-papiers comme des chercheurs ou des lecteurs plus classiques. Laurent Saint-Gel, vous êtes président de la Bibliothèque nationale de France et notre invité ce soir, autour de la table, Olivier Tesquet, journaliste à Télérama, Claire Baumeller du Figaro, Zoé Sfez de France Culture. Parlons maintenant des bibliothèques. Est-ce que cette idée d'un lieu social, d'un lieu ouvert, d'un lieu inclusif correspond à ce que vous pensez être la mission des bibliothèques?
En tout cas, c'est bien ce rôle que jouent les bibliothèques depuis toujours. Il y a un ADN très fort à cette question de l'ouverture. De l'ouverture, de l'accueil.
On parle de tiers-lieu parfois.
Oui, alors on met
toujours. Formule classique.
Une formule qui existe depuis, je pense, une petite vingtaine d'années, parce qu'on cherche toujours un mot.
Pour une fois, c'est un mot en français, c'est déjà pas mal.
Et puis c'est un mot qui a été inventé en France, donc c'est une question que se sont posées les bibliothécaires pour essayer de faire comprendre ce qu'elles étaient. Tiers-lieu, c'est-à-dire ce lieu entre le lieu de travail et le domicile et la maison. Et en effet, dans une bibliothèque, on ne passe pas, on s'y installe. Une étude avait été faite sur le public de la BNF par un laboratoire de recherche et qui l'avait intitulé « Habiter la BNF ». Quand on vient à la bibliothèque, on s'y installe. Donc il y a ce rapport à une forme d'intimité qui renvoie aussi.
Comment ? C'est grand, une fois qu'on rentre. On
peut c'est quelque chose qui est, je trouve, très fort physiquement dans une bibliothèque, même dans une bibliothèque comme la BNF, même dans des salles très impressionnantes comme celle de Richelieu, la salle ovale ou la salle Labrousse. Quand on y est, on s'y sent bien et les gens s'y sentent bien. Et y a vraiment ce rapport très intéressant entre l'institution et l'intimité que recouvre un même mot, parce que bibliothèque, c'est la bibliothèque chez soi, c'est le le mobilier pour y ranger meuble, ses livres, c'est la collection de livres et c'est aussi la bibliothèque publique.
Sur ses fonctions sociales, il faut pouvoir rédiger son CV, parler avec Pôle emploi, lutter contre l'illettrisme, accueillir des migrants, avoir des écrivains publics, être tout simplement un service public qui vous aide pour vos impôts, pour la poste, pour les paquets. C'est ça l'avenir des bibliothèques selon vous? C'est ça l'un de leurs rôles?
C'est déjà ce qu'elles font et c'est ce qu'elles ont toujours fait. Les anecdotes permettent parfois de bien comprendre les choses. Je me souviendrai toujours de cette directrice de bibliothèque qui avait été primée par Livre Hebdo pour les bibliothèques et qui racontait pourquoi elle avait décidé d'être bibliothécaire. Elle racontait la vie de sa grand-mère, elle-même bibliothécaire, au fin fond de la Bretagne, dans un port, et qui faisait tous les vendredis ou tous les samedis, enfin, je ne sais pas quel jour de la semaine, ou peut-être même tous les jours à 17h, le vin chaud, pour que les marins... à l'époque illettrés, viennent pour les attirer dans la bibliothèque et leur faire l'heure de la lecture. La lecture à voix haute se faisait déjà dans les bibliothèques pour qu'ils viennent, qu'ils aient envie de venir. Donc on parle, et ça on est au 19e siècle, donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça prend des formes nouvelles, mais cette idée que la bibliothèque est le lieu de l'accueil, cette espèce d'empreinte du monde, c'est vraiment ce qui les caractérise. Donc elles vont faire d'abord découvrir des livres, donner envie de lire, et puis aujourd'hui, puisque la création se fait sous d'autres formes, les jeux vidéo, le DVD, la musique, encore une fois, faire découvrir tout ce qui est, et elles feront les bibliothécaires qui sont souvent des femmes en effet, mais ils feront ce qu'il faut pour que les gens viennent. Donc on a une espèce de prototype de ce que on met en avant dans toutes les politiques culturelles depuis qu'il y a un ministère de la culture, cette question de la démocratisation, de l'ouverture, de l'accueil, c'est vraiment dans l'ADN de la bibliothèque, des bibliothèques.
Une question pour terminer, Olivier Tesquet, peut-être sur le numérique et les bibliothèques.
Alors je suis très attaché au caractère très physique des bibliothèques, qui sont des lieux que j'aime beaucoup fréquenter pour écrire, ou même juste parce qu'effectivement je trouve qu'on s'y sent bien. Mais effectivement, je vais poser une question sur la dématérialisation. Est-ce que aujourd'hui le défi de la numérisation et de la conservation numérique de vos archives pose des défis qui peuvent être alors ou semblables ou différents de la conservation traditionnelle, des questions d'obsolescence par exemple qui pourraient se poser et qui pourraient poser la question de la sauvegarde de ces documents numérisés? On parlait tout à l'heure des archives de la presse de la Troisième République qui sont à mon sens assez utiles pour comprendre et éclairer le présent. Est-ce que la question de la numérisation pose des soucis similaires?
Moi j'ai tendance à ne pas du tout opposer la bibliothèque physique et la bibliothèque numérique. Alors chacune joue un rôle différent, mais en tout cas les bibliothèques nationales, parce que toutes n'ont pas les moyens d'avoir des politiques de numérisation comme celles que nous portons, et c'est notre rôle que de le faire, c'est quelque chose qui est essentiel. La bibliothèque, je le disais tout à l'heure, c'est le lieu de l'organisation des savoirs. Donc ça a à voir avec le monde du numérique, c'est-à-dire qu'on est très proche du numérique, on est une espèce de grosse machine à produire des données, des métadonnées sur les ouvrages qui rentrent dans les collections. Ça, c'est un rôle essentiel. C'est le rôle que joue la bibliothèque aujourd'hui, la Bibliothèque nationale, sa capacité à produire des données qui permettent aux œuvres produites en France d'exister sur le net et donc d'exister de manière internationale. Et avec cette politique engagée depuis 20 ans, bien sûr, tout ce qui touche au numérique nous concerne et nous le maîtrisons. La conservation pérenne, ça fait partie des choses que nous maîtrisons. Donc on adapte, on a un système d'archivage pérenne. Et tout ce qui est conservé, tout ce qui est numérisé, est réadapté régulièrement pour pouvoir être toujours lu sur les outils dont on dispose aujourd'hui.
Laurent Saint-Gel, président de la Bibliothèque nationale de France, était notre invité ce soir. On n'a pas eu le temps de vous interroger sur le rapport hors Sénat concernant l'ouverture des bibliothèques le dimanche, ni sur le rapport Racine qui concerne, sorti cette semaine, rendu public cette semaine par le ministre de la Culture, d'ailleurs après pas mal de retard, et qui concerne la question des auteurs, plus largement des auteurs artistes. Merci en tout cas infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Pour aller plus loin, merci sur ces questions, références, articles et livres dont on a parlé ce soir, et les musiques aussi qu'on a diffusées, et bien d'autres informations sont à retrouver sur le site de France Culture, émission Soft Power. La semaine prochaine, dans Soft Power, nous consacrerons notre émission aux Microfolies, l'autre projet culturel du quinquennat Macron avec le Pass Culture, et je recevrai Didier Fusilier. Dans un instant, Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous signaler que l'économiste Stéphane Carcillo sera l'invité des matins de France Culture, donc demain matin. Merci à Olivier Tesquet de Télérama, Claire Baumeller du Figaro, Zoé Fès de France Culture et à vous, Laurent Saint-Gel. Bonne soirée à tous et à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.